Eh bien aujourd'hui nous donnons la parole à un père qui a accepté de venir nous raconter son parcours après une séparation. Ici l'idée est simple, laisser les papas parler avec leurs mots de ce qu'ils ont vécu, de ce qui a été difficile, de ce qui a changé pour eux dans leur rôle de père, un témoignage libre sans jugement pour mieux comprendre ces parcours souvent invisibles. J'ai le plaisir d'être en ligne avec Odul. Salut Odul.
Salut Tony.
Alors déjà pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter ton histoire de papa après la séparation?
Eh ben là, depuis la séparation, déjà après que leur maman soit partie, j'ai mis plus de 2 mois et demi avant de revoir mes enfants, ce qui était assez violent.
Et comme
rien que d'en parler, ça me...
Ouais, je comprends.
Ça remonte tout de suite et c'est violent. Donc voilà, et j'ai réussi à les avoir au téléphone. La mère a bien voulu, a fait un appel masqué. Exceptionnellement, j'ai répondu et j'ai eu ma fille au téléphone. Et là, ça a été... très dur. Maintenir une façade pour les enfants pour pas les alarmer et tout en étant effondré au téléphone, c'était très très violent ce jour-là. Avec d'y penser à chaque fois, ça me met par terre.
Et
après, on est passé peut-être un mois après au tribunal pour la garde des enfants, sachant qu'avant il y avait tout un cheminement juridique avec des plaintes, des allégations sur des plaintes, sur des trucs totalement bidons pour lesquels la mère a été déboutée. Après, elle a mis en place après ça des visites médiatisées par un ami à l'époque qui a pris le parti de madame. Et ils m'ont autorisé, ces deux personnes-là, à voir la mère et ce monsieur, à voir mes enfants 2 heures sous la surveillance de ce monsieur, sans aucun cadre juridique. Donc ça a été très chaud, très compliqué pour pouvoir assumer son rôle de père.
Alors, est-ce que tu peux juste préciser ce que c'est que les visites médiatisées? Parce que je sais que c'est quelque chose qui est assez courant dans ce genre de situation,
alors,
mais pour les auditeurs qui ne connaissent
pas... Alors, la visite médiatisée, normalement, c'est sous la tutelle, normalement, c'est juridique, et c'est sous la tutelle d'éducateurs dans un centre adapté. Sauf que là, en l'occurrence, c'était donc aucun cadre légal, c'est la maman qui a décidé de mettre ça en place, contre avis des avocats. Et donc, j'avais une personne qui surveillait mes faits et gestes avec les enfants, et qui surveillait tout ce que je pouvais leur dire, ce que je pouvais leur faire, et qui rapportait tout à la maman.
Et tu as combien d'enfants exactement, voilà. Et comment se passaient les choses avec tes enfants?
Alors j'ai 3 enfants.
Ouais.
Avant, je participais à la vie de tous les jours avec les enfants, j'en ai 3, 2 garçons et une fille. Je participais aux tâches ménagères, je les accompagnais aux activités sportives, je faisais des sorties scolaires avec eux. J'avais adapté mon travail pour pouvoir gérer ça. C'est-à-dire que je me suis mis à travailler de nuit pour être dispo la journée, pour les accompagner à l'école, pour faire les accompagnements piscine, activités sportives de l'école et à leur sport respectif. Et on jouait régulièrement ensemble dehors, voilà.
Et qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi au début de la séparation?
Ne pas avoir de nouvelles de mes enfants, ne pas savoir où ils étaient, ne pas savoir comment ils allaient. Ne pas savoir comment ils ressentaient les choses, eux, de leur côté. Et puis, se retrouver du jour au lendemain, être une famille de 5 personnes, et puis du jour au lendemain, être seul face au néant, sans aucune nouvelle.
Et est-ce que tu t'es senti soutenu à ce moment-là, ou est-ce que tu t'es senti plutôt seul?
On va dire que au tout début, un minimum soutenu, parce que personne ne savait où était madame. Et quand madame a commencé à diluer son venin, de plus en plus isolé, j'ai eu... la plupart des amis ont pris son parti, et je me suis retrouvé... j'étais dans une troupe, on va dire, où j'avais créé une famille de cœur. Et une partie des personnes, on va dire 90% des personnes, ont pris le large. Et tu te retrouves seul face à toi-même, face à ta merde.
Et à ce moment-là, est-ce que tu t'es... senti particulièrement mis de côté par les institutions comme père, la police, la justice?
Je n'existais plus en tant que père, je n'avais aucune parole, aucun... La justice, on me dit oui, potentiellement vous êtes un bon père, mais au vu de ce que madame dit, vous n'êtes plus capable d'assumer votre rôle de père. La police, on n'en parle même pas, de toute manière t'es un homme, j'étais coupable de tout ce qu'on pouvait me reprocher. Je pense qu'elle aurait même, à l'époque, dit que j'étais le bras droit de Vladimir Poutine. On l'aurait cru. Un déferlement de violence et de choses. Toutes les semaines, j'avais l'impression de recevoir un nouveau missile sur la tête et d'être la personne la plus cruelle sur Terre.
Alors, le parcours judiciaire est particulièrement long et complexe dans ce genre de situation. Comment ça se passe à ce niveau-là pour toi aujourd'hui?
D'aujourd'hui, on est passé... trois fois ou quatre fois au tribunal. Pour être très clair, madame avait fait une demande de mise sous protection pour laquelle elle a été déboutée quasi intégralement. Il reste une partie en suspens au niveau juridique, puisqu'elle a porté des accusations extrêmement graves. Et je suis passé après devant le JAF pour avoir mes enfants. Madame ne voulait que des visites médiatisées une fois par semaine. Et madame a été déboutée une nouvelle fois, puisque j'ai pu, et ça c'est un grand soulagement, même si c'est encore trop peu à mon goût, avoir un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires. Et puis dans tout le parcours, j'ai fait aussi la garde à vue au vu des accusations de madame. Et en l'état actuel des choses, la justice n'a rien contre moi. Mais tant que les juges n'auront pas statué, je ne pourrai pas avoir mes enfants plus que ça.
Alors, vous avez été beaucoup à me témoigner ces derniers jours d'avoir fait de la garde à vue suite à des accusations de ce type. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs comment ça se passe, une garde à vue?
On arrive librement. Moi, j'ai été convoqué un mercredi matin. Je suis arrivé librement. Et en arrivant, on m'a notifié que j'étais placé en garde à vue afin de répondre aux accusations de madame. Donc, dans un premier temps, c'était le relevé des empreintes digitales, relevé des empreintes génétiques. Et après, pour parfaire un petit peu le truc, mise en cellule en attendant la suite des événements. Donc, dans une cellule qui fait 9 mètres carrés, béton au sol, lit en béton et des toilettes turques où il faut appeler les forces de l'ordre pour qu'elles viennent tirer la chasse si besoin était.
Ouais, donc assez humiliant, quoi.
Très humiliant. Et puis, les suites de la garde à vue, c'est on vous demande si vous voulez un avocat. Donc, avocat commis d'office, ce que je conseille fortement à tout le monde. Parce qu'on va répondre avec notre cœur, et des fois, notre cœur va être contre-productif. Il faut quasiment devenir une machine à répondre à des questions qui se répètent en continu. Parce que j'ai été auditionné une première fois le mercredi après-midi. Ça a duré plus de 2h30, où c'était des questions les mêmes questions reformulées différemment pour voir si les réponses étaient toujours les mêmes. Le soir, j'étais emmené à l'hôpital pour voir si je pouvais être maintenu en garde à vue, si mon état de santé le permettait. Et au retour de l'hôpital, où le médecin a confirmé que j'étais apte à une garde à vue, j'ai été remis en cellule de 22h jusqu'à 10h le lendemain matin.
De combien de temps exactement cette garde à vue? 24 heures, c'est ça?
Ils m'ont gardé 48 heures.
48 heures, oui.
48 heures où j'étais interrogé deux fois au total. Je devais être théoriquement confronté à madame. Madame a refusé de venir, se disant qu'elle n'était pas en mesure de le faire. Après, ce n'est pas le retour que l'avocat m'a fait. Mais c'est ce que les forces de l'ordre ont laissé comme information. Et au bout de ces 48 heures de garde à vue, ils n'avaient pas de matière, mais ils m'ont desserré au parquet de la ville, où j'ai été mis dans une nouvelle cellule, encore plus petite que les autres au tribunal, dans un truc archaïque. On avait l'impression d'être dans une cellule du 19e siècle, sans lumière sur l'extérieur, sans rien. Et je suis resté, j'arrivais à 10h le matin, je suis resté jusqu'à 15h dans cette cellule. Et à 15h, on m'a sorti pour me mener face à un juge qui me dit, là on n'a rien, en gros. On vous met en tant que témoin assisté, vous devez juste répondre à nos appels et rester sur le territoire français, tant que la procédure n'est pas terminée. Et depuis, j'attends.
Et aujourd'hui, comment se passe le lien avec tes enfants?
Les enfants, je les vois donc un week-end sur deux. Et dès que eux demandent à chaque fois que je les vois pourquoi ils ne peuvent pas rester plus longtemps chez papa. Pour un de mes garçons, pour lui, ce n'est pas équitable que ce soit. C'est son discours, ce n'est pas le mien. Ce n'est pas un discours que j'ai essayé d'influencer, loin de là. Son discours, lui, c'est pas équitable. Il ne comprend pas pourquoi c'est maman le plus souvent et papa de temps en temps. Il n'est pas forcément en accord avec ça. Il a voulu être entendu par un avocat, mais l'avocat a jugé qu'il n'était pas encore suffisamment mature pour se prononcer.
Et quel âge ils ont, tes enfants?
Et les deux autres font... Et ils ont 6, 8 et 10 ans.
6, 8 et 10 ans, d'accord.
Et même la plus petite, en fait, demande régulièrement à rester la semaine parce qu'elle veut profiter de son papa, je lui manque, etc. Donc, chaque fin de week-end, c'est un peu ce discours qui revient. Et pourquoi on ne reste pas avec toi? On ne veut pas aller chez maman maintenant. On veut rester un petit peu avec toi. Est-ce qu'on peut revenir dans la semaine te voir? Parce que la maman refuse catégoriquement.
Et qu'est-ce qui est le plus compliqué à gérer pour toi au quotidien?
Au quotidien, en fait, je ne vis pas. J'attends les week-ends où j'ai les enfants. Je suis en mode survie le reste de la semaine, où j'essaye d'affronter la vie, les réalités qui s'offre à moi maintenant. Donc c'est très compliqué et je vis que dans l'appel des enfants quand madame permet qu'ils appellent ou dans des visites des enfants. Entre temps, je suis plutôt un zombie.
Ouais, ça
qui essaie de s'occuper importe soit peu.
Ça omnibule un petit peu tes pensées, t'as plus de temps, d'espace dans ton cerveau pour penser à autre chose en fait.
Ah mais tout ça me parasite totalement. Mm-hmm. C'est, je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait, je reviens sans arrêt là-dessus. Quand c'est pas ça que je réfléchis, c'est bah, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec les enfants. Je réfléchis aux activités, aux choses que je vais pouvoir faire avec les enfants. J'essaie de faire des projets à long terme avec eux, mais sans grande illusion en fait.
Donc ça t'impacte énormément psychologiquement, ça on le conçoit, on l'entend. Et sur d'autres aspects aussi, je ne sais pas, financièrement, tu dis que tu as eu 4 procès, j'imagine que tout ça, ça a dû te coûter une fortune. Est-ce que c'est une situation qui doit être particulièrement compliquée à vivre aussi, sous cet angle-là?
Ah bah, de toute façon, la situation, madame m'a laissé quelques milliers de dettes. Donc je suis en surendettement Banque de France. J'ai tout vu pour aller au procès, j'étais obligé d'emprunter de l'argent à la famille qui restait, aux 2-3 amis qui me restaient. Et puis je rembourse tout ce petit monde, et puis moi je survis entre temps. Je survis entre temps quoi. Je n'ai pas de droits divers et variés, j'ai aucun droit social. Donc les jours où je mange, et les jours où je mange pas, tant pis. Hein. On mange pas.
Et socialement, comment tu décrirais les choses? Est-ce que tu te sens plutôt soutenu par les gens autour de toi? Est-ce que les gens s'éloignent du fait de la tristesse, de la déprime?
On va dire qu'il y a 80% des gens qui sont partis déjà quand madame a sorti ses allégations, puisqu'elle est arrivée avec tout un tas de choses. Donc déjà, il y a eu un premier tri qui s'est fait. Après, il me reste réellement sur le groupe d'amis, nous étions une quinzaine, il me reste un couple d'amis qui, eux, ont vu un peu la lumière au milieu de tout ça. Et ces gens-là, je les remercie encore à l'heure d'aujourd'hui. Et puis, quelques personnes finalement qui sont revenues. On va dire qu'il y a des étoiles qui brillent loin. Et puis finalement, ces étoiles que vous croyez perdues, c'est elles qui éclairent vos routes. Je me dis maintenant, ça a fait un tri.
Est-ce que tu es en contact avec d'autres parents qui sont dans ta situation pour tenir
D'autres papas. Avec d'autres papas par le biais d'un autre papa qui a créé un mouvement citoyen, et où il y a des plateformes d'écoute et d'échange entre papas. Ce mouvement tente à devenir un mouvement pour les parents et non que pour les papas. Mais ça a été aussi quelque chose de très salvateur.
Ouais, c'est quelque chose qui t'aide à
voir que j'étais pas le seul. Ça permet de voir que je n'étais pas le seul au fond de mon trou, quoi. Parce que les gens, quand ils sont en couple avec leurs enfants, avoir un mec seul avec ses enfants où il y a des accusations bizarres qui ont été portées, ça ne devient pas quelqu'un de fréquentable.
Ça t'aide à tenir, en fait.
Ça t'aide à tenir.
Ouais. Tu échanges des expériences avec d'autres papas. Tu retrouves sans doute un certain nombre de similitudes dans les récits des différents papas, non?
J'ai l'impression que c'est un copier-coller, en fait, au niveau des situations, au niveau des dénonciations calomnieuses. En échangeant, et ce n'est pas avec un papa en l'occurrence, c'est avec plusieurs papas quand on échange, mais on a l'impression que les situations, c'est des copier-coller. Où on prend le violentomètre qui était sorti par l'Institut de protection des femmes, et on a l'impression qu'elles ont tout coché. Tout coché de chaque chose, où on est tous cruels, on est tous la bête immonde à abattre. C'est même bluffant, tant de ressemblances.
Tu ressens un manque d'équité dans le traitement de la police, de la justice, entre hommes et femmes sur ce sujet?
En tant qu'homme, on n'arrive pas en tant que victime, on arrive en tant que coupable. Que ce soit la justice, la police ou socialement, on est de toute manière de fait, s'il y a une dénonciation, qu'elle soit réelle ou pas, on est la bête immonde. Pour moi, c'est ça. À une époque, dans mon esprit, j'étais le fils adoptif d'Hitler et de Belzébuth.
Et ça fait combien de temps que tu te bats comme ça pour tes enfants?
La mère de mes enfants est partie en mars 2024. Et depuis, c'est un combat perpétuel. Chaque petite demande, chaque petite chose est un combat. Que ce soit pour le suivi de santé des enfants, que ce soit au niveau scolaire, que ce soit au niveau social, c'est un combat au quotidien. Et au niveau juridique, on n'en parle même pas. On dit que l'armée, c'est la grande muette, mais la justice peut se revendiquer être dans le même cas.
Ouais, c'est sous quel aspect, en particulier la lenteur de...
C'est une lenteur administrative où il y a le temps réel et le temps juridique. On va dire que pour eux, moi si je fais une estimation, une année pour eux c'est un mois et une journée c'est le mois, quoi. Enfin, c'est affolant. C'est affolant la lenteur des réponses entre les avocats, les juges. C'est, on dit on vous donne réponse rapidement. Le dernier au JAF, c'est on vous donne réponse rapidement. La réponse, c'est un mois après. Pendant un mois, on est en attente d'une réponse positive ou négative.
Qu'est-ce qui t'aide à tenir
Ce qui m'aide à tenir, j'ai essayé de m'ouvrir à d'autres choses pour pouvoir avancer. Je me suis mis à reprendre des cours sur des trucs divers et variés, je me suis remis au sport, pas non plus en bête de sport, mais à refaire une activité sportive qui est aussi... un défouloir et aussi pour ma sécurité, parce que je me sens pas en sécurité quand je croise les personnes qui sont dedans. J'ai vraiment peur, ne serait-ce que mon beau-père qui est la personne qui m'amène les enfants sur les périodes scolaires, qu'un jour il m'en mette une. Parce que c'est quelqu'un de très impulsif et qui peut péter un câble du jour au lendemain. Donc je fais du self-défense pour assurer ma sécurité. Tout simplement, je suis pas quelqu'un de violent de base, je suis même plutôt à l'opposé, je suis plutôt... un petit lapin de 6 semaines, je dirais, au niveau violence. Je suis quelqu'un de nature très calme et très sereine, mais là j'ai peur pour moi, donc je me suis mis à ça. Et en contrepartie, pour avoir un petit peu de renouer du lien social, je me suis mis à faire de l'hypnose de spectacle en prenant des cours dans une association.
Ah oui, est-ce qu'il y a des choses qui t'aident particulièrement bien dans ce parcours, je sais pas, un soutien psy, l'aide d'un avocat qui te sent en confiance, des associations?
Alors les associations, en proprement dit, à part le mouvement citoyen, j'ai tenté de nouer des contacts avec des associations, mais les associations d'aide aux pères, finalement, il y a très très peu au niveau national. Elles sont quasi inexistantes et les quelques-unes, c'est les grosses plateformes où on arrive à joindre très peu de monde. Au niveau assistance sociale, je suis suivi par une assistance sociale. Et avant, j'étais plutôt quelqu'un de très cartésien, tout ce qui était psycho, je me disais c'est pour les autres, c'est pour les dingos. Finalement, je crois que je suis arrivé au camp des dingos, que maintenant je suis suivi par une psychologue pour pouvoir affronter tout ça aussi. Et j'ai fait appel à de la médecine douce et parallèle, la kinésiologie, l'hypnothérapie, enfin la sophrologie, pour pouvoir surmonter un petit peu le choc de tout ça.
Et donc, avec le recul... Si tu pouvais revenir dans le passé, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment pour éviter de subir tout ça?
Qu'est-ce que je referais différemment? C'est une question que je me pose en continu, en fait, mais sans arriver à avoir de réponse réelle. Que je ne sais même pas si j'avais mis d'autres choses en pratique, même avant la séparation, ça aurait apporté quelque chose au final. Je pense que de toute manière, ma compagne, elle était, quoi qu'il en soit, elle voulait partir, elle serait partie. Peu importe si j'avais changé d'horaire de travail, changé de travail, si j'avais géré autrement le quotidien, je ne suis même pas sûr. Je pense qu'elle était arrivée au bout d'un parcours affectif et qu'elle a trouvé une solution pour partir la tête haute. Moi, c'est mon ressenti actuellement. Peut-être que je me trompe, peut-être que je me cache, je me voile la face. Mais je ne sais même pas si, en mettant d'autres choses en pratique, si ça aurait pu changer cette rupture. Peut-être que j'aurais anticipé et que j'aurais, en me prévenant, écoute, là, de toute façon, c'est la fin de la relation couple. Et peut-être essayer de trouver une solution pour qu'elle se termine sous de meilleurs auspices. Je pense que c'est la seule chose que j'aurais pu faire réellement.
Qu'est-ce que tu tires comme enseignement de cette épreuve? Qu'est-ce que ça t'a appris, tout ça?
Eh bien, la première chose que ça m'a appris, c'est ne jamais réagir à chaud. Et ne pas fonctionner avec l'affect, malheureusement. Mais toujours réfléchir avant de parler. Enfin, c'est triste à dire, hein. C'est peut-être calculateur maintenant ou manipulateur, n'en déplaise à certains. Mais c'est de maintenant, c'est avant de répondre à un message ou avant de répondre à quelqu'un, c'est de réfléchir.
Ouais, parce que tu as peur que tout ça se retourne contre toi avec des impressions d'écran dans les dossiers, des choses comme ça.
C'est ça, tout à fait. Et ça devient ou on devient finalement une machine. Où je suis obligé d'aller contre ma nature de base et de réfléchir et de fonctionner avec un côté très cartésien, très formel et plus dans l'affect pur.
Ouais, d'autant plus qu'on sait que les juges en général refusent par exemple la résidence alternée dès lors que une des deux parties arrive à, enfin la partie qui refuse la résidence alternée arrive à montrer qu'il y a un désaccord et une mésentente entre les parents. Donc faut être extrêmement vigilant sur, sur les réponses qu'on formule, par exemple, à des messages sur Messenger ou des SMS, quoi.
C'est ça. Maintenant, moi, tout est tracé.
Si tu avais un message,
c'est par mail ou par SMS.
Et si tu avais un message à faire passer à d'autres parents qui subissent ce genre de fait, ce serait quoi ?
Garder l'espoir.
Garder l'espoir.
C'est l'espoir qui permet de faire avancer. Sans espoir, on n'est rien. Moi, je reste debout pour mes enfants. Et mon combat ultime, enfin, si on peut dire que ce soit un combat, c'est un peu regrettable comme terme dans une situation comme ça, mais. La chose qui me tient debout et qui me permet d'avancer, c'est l'espoir d'avoir des enfants plus souvent près de moi.
En ce moment, il y a une initiative qui est en cours, portée notamment par le collectif Défendre les enfants, qui est cette PPL 819, qui est un projet de loi donc, du coup, visant à généraliser la résidence alternée, sauf en cas forcément de dysfonctionnement avéré d'un des deux parents. Et on sait que plein de pays, notamment en Europe, ont mis la résidence alternée par défaut. Est-ce que c'est quelque chose qui te donne de l'espoir ? Est-ce que tu as du mal à y croire ? Comment tu vois cette initiative ?
J'ai beaucoup d'espoir pour cette loi et pour tous les mouvements qui peuvent se mettre derrière pour pouvoir faire progresser ça. Après, je suis même pas sûr, autant dans les pays scandinaves et dans les d'autres pays, c'est quelque chose qui est... Il y a une parité réelle. Autant en France, j'ai un doute malheureusement que ça puisse... passer comme ça. C'est peut-être... pour moi, on croit plus la parole des femmes en France, et c'est pas pour être misogyne ou macho, très loin de là l'idée, hein. C'est pas du tout mon concept, très loin de là. Moi, je travaille avec des femmes, je travaille en milieu hospitalier, donc les propos machistes n'ont pas leur place, mais malheureusement, je pense que la société a évolué, où à une époque c'était une société patriarcale, où on paye les conséquences à l'heure d'aujourd'hui. Et maintenant, on tente à aller sur une société matriarcale. Mais de toute façon, il y a toujours un extrême et c'est jamais positif pour les deux.
Tout à fait. Je partage cette vision.